Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Forum du Studio Kalangou. Depuis l'apparition des premiers cas de la maladie à coronavirus, les plus hautes autorités de l'État appellent le soutien des uns et des autres pour circonscrire la propagation de la maladie. Aujourd'hui, le thème du forum porte sur la contribution des leaders religieux dans la lutte contre le coronavirus. Pour en discuter, nous sommes dans ces studios avec deux invités. Il s'agit de Cheikh Barham Aboubakar, président du comité inter- et intra-religieux CEDIR, et du pasteur Issa Moussa, membre aussi du CEDIR. À la présentation, Fatih Zakari. Le Niger est à la manœuvre pour stopper le coronavirus. À cet effet, tous les moyens humains, matériels et financiers sont mobilisés. La contribution des uns et des autres est nécessaire, notamment celle des leaders religieux, dans un pays où l'islam et le christianisme sont les deux principales religions. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum sur la contribution des leaders religieux dans la lutte contre le coronavirus. Que dit l'islam en cas de pandémie et d'une maladie?
Avant de commencer, je voudrais d'abord rendre grâce à Allah, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Que la paix et la bénédiction du Seigneur se perpétuent sur le messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa sainte famille et ses fidèles compagnons. Ce que dit l'islam par rapport relativement à cette pandémie et le fait que les pandémies sont des choses qui ont déjà eu lieu dans l'histoire de l'islam et à maintes reprises, tant du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que du vivant de ses compagnons. Et tout au long de l'histoire, il y a toujours eu de temps en temps des pandémies ou bien en tout cas des épidémies. On parle de pandémie quand c'est mondial, mais les épidémies, ça peut être circonscrit, une épidémie, à une ville, à un village, à une région, à un pays. Donc, dans l'histoire de l'islam, il y a eu tout ça. Quelle est la position de l'islam par rapport à ça? Elle est simple. L'islam est une religion de vie, est une religion qui accorde, qui sacralise la vie de l'être humain. À plus forte raison, la vie du croyant. Et l'adoration d'Allah, qui est une obligation canonique, n'est pas un prétexte pour exposer dangereusement la vie du fidèle. Nulle part cela n'a été prescrit par l'islam. Je vais vous donner l'exemple, un exemple simple. Et dans la mosquée où les gens se regroupent pour prier, cette prière-là doit d'abord c'est faire dans un climat empreint de sérénité. On a besoin d'une sérénité pour pouvoir faire cette prière, pour que cette prière soit valide. C'est même une des conditionnalités de validation de la prière canonique lorsque vous prenez les livres de base et que vous lisez quelles sont les conditions de validation ou bien de validité d'une prière canonique. Ça peut être le matin, le subha, le asbah, le zohr, le maghreb, etc. Vous allez voir qu'il y a toujours la sérénité qui fait partie de ces conditions. Donc cette sérénité n'est qu'un exemple, mais il faut aller au-delà de la sécurité. Qui dit sérénité dit aussi la sécurité. On a même dépassé la sécurité. On parle de sérénité. Donc il ne faut même pas qu'il y ait une mouche qui vienne déranger les gens dans cette enceinte-là, puisqu'on est là en présence de Dieu. On est là en conversation intime avec le Seigneur. C'est pourquoi le messager d'Allah, en son temps, il avait même eu à empêcher quelqu'un et les gens d'aller à la mosquée après avoir ingurgité ou bien mangé des oignons ou bien après avoir mangé de l'ail. Pourquoi? pour que l'odeur qui en dégage de la bouche de ces gens-là ne puisse pas importuner ceux qui sont là pour prier. Vous voyez à quel point on insiste sur cette sérénité. À plus forte raison, quand il y a une maladie dangereuse du type de COVID-19, où vous risquez de la transmettre à quelqu'un, ou bien quelqu'un risque de vous la transmettre et que, à part là, vous allez la transporter à vos familles. Donc, l'islam, si l'islam met toutes ces choses-là, c'est parce que l'islam tient compte toujours de la vie des croyants. L'islam tient compte de leur sécurité et surtout de leur sérénité.
Voilà, je tourne donc vers le pasteur Issa Amoussa. Pasteur, que dit le christianisme, deuxième religion la plus pratiquée après l'islam quand il y a donc une pandémie?
Donc, nous disons merci à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité et pour cette grâce qu'il nous fait. Lui qui, nous, par sa grâce, nous sommes en vie. Et ce privilège qu'il nous fait d'être dans ce studio pour pouvoir un peu parler par rapport à cette situation qui est d'actualité par rapport à cette pandémie. À des moments dans la Bible, quand nous lisons, il y a eu ces genres donc, de maladies, de pandémies. Comme l'avait dit Cheikh, on parle de pandémie parce que c'est mondial. Parce que nous voyons que même s'il y a une épidémie, alors chaque fois dans la Bible, nous voyons que Dieu attire l'attention du prophète pour dire de circonscrire donc cette maladie et comment. C'est en essayant de mettre de côté tous ceux qui sont atteints de la maladie. Nous prenons par exemple la lèpre. Quand nous voyons que la lèpre, c'est une maladie contagieuse, et nous voyons que dans la loi, c'était clair, Dieu a ordonné à ce que tous les lépreux soient mis hors du camp, jusqu'à ce qu'ils soient guéris. Pourquoi? Pour ne pas encore infecter les autres. Donc, par rapport à cette situation que nous voyons, c'est cette maladie, et nous voyons que c'est une maladie vraiment qui est dangereuse, c'est une maladie vraiment qui est très contagieuse. Et c'est une maladie qui n'a pas de vaccin ni de sérum. Et c'est pourquoi, donc, en tant que religieux, nous voyons que Dieu nous a donné une responsabilité. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes donc des sentinelles. Et nous voyons qu'une sentinelle, c'est pour avertir, une sentinelle, c'est pour veiller, que quand il y a quelque chose de mauvais, d'avertir tous ceux qui sont concernés afin qu'ils prennent les mesures adéquates qu'il faut pour faire face au danger. Et nous avons vu que même dans la Bible, et quand nous lisons dans le livre d'Exode, le chapitre 12, il y avait un temps où Dieu lui-même a pris l'engagement de mettre fin à la vie de tous les premiers-nés en Égypte. Mais Dieu avait appelé son peuple à prendre des mesures. Voilà ce que vous devez faire, donc passez le sang sur les linteaux de maison et cachez-vous dans vos maisons. Et même si l'esprit de mort passe, donc vous serez invisible à cause de ce sang qui a été versé. Il a bien dit, restez dans vos maisons et attendez voir ce que Dieu va faire. Et nous avons vu, les gens ont entendu cette parole du prophète Moïse et les gens ont respecté. Donc ce qui veut dire que quand il y a ces genres de maladies, en tant que croyant, notre devoir c'est de trouver la place qu'il faut pour attendre la fin de cette pandémie.
Pour donc ainsi diminuer la propagation du COVID-19, les autorités ont pris plusieurs mesures parmi lesquelles le lavage des mains, le port de bavette, la distanciation. Est-ce qu'au temps des prophètes, il y a eu des maladies qui ont contraint donc les fidèles à adopter d'autres comportements?
Effectivement, du temps du messager et du temps du compagnon aussi, il y a eu plusieurs épidémies. L'une des plus célèbres est cette épidémie qui a eu lieu du temps du deuxième calife Omar bin Khattab, qui était le Amir al-Mu'minin, le commandeur de croyants. Lui, il ne savait pas, il avait pris toute sa délégation pour partir à Cham. Cham, c'est la Syrie. Et à l'époque, donc, il n'y avait pas de route, c'était sur à dos de chameaux, etc. Donc, les voyages étaient pénibles, ça devait prendre des jours et des jours, sinon plusieurs semaines, ou un mois même, sinon plus. Donc, arrivé aux frontières du Cham, il a été accueilli par le commandant qui tenait la ville de Homs, donc, qui s'appelait Abu Ubaid ibn al-Jarrah. qui est un des compagnons du prophète Mohammed sallam, quelqu'un qui a beaucoup lutté pour l'islam. Donc ce monsieur, avec toute sa délégation, ils l'ont accueilli au niveau de la frontière. Après les salutations, ils lui ont dit « Oh, commandeur des croyants, notre ville a un problème, ou bien notre pays a un problème. C'est qu'il sévit une terrible maladie qui est contagieuse et qui est mortelle. Ben, qu'est-ce que le Omar bin Khattab a fait ? Séance tenant, il a décidé de rebrousser chemin. Malgré la pénibilité du voyage, malgré la distance, malgré tout ce qu'il a fait pour venir, il a refusé d'entrer. Il a été contraint de retourner avec toute sa délégation à la Mecque. Il n'est pas rentré en Syrie le jour-là. Donc, pourquoi ? Parce que non seulement en tant que responsable, il devait prendre en compte la sécurité des gens qui sont saints, qui sont avec lui, ainsi que de lui-même. Ensuite, parce que l'islam dit, le Coran dit, voilà tout le Kobiya dit, comme il est tahaluka, ne vous lancez pas éperdument dans la perdition. Donc, vous ne pouvez pas vous lancer les yeux fermés dans ce qui peut vous détruire. Ensuite, il a fait ça parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous êtes dans une ville où sévit cette maladie, n'en sortez pas. Si vous êtes en dehors, n'y entrez pas. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc lit ici, il a appliqué à la lettre cette recommandation sainte du messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui consiste à s'abstenir d'entrer là où il y a une maladie contagieuse. Aussi, l'islam, il dit carrément aux gens, restez chez vous, fermez les mosquées, restez chez vous. Il n'y a que les muezzins qui partaient dans ce genre de conditions, bien sûr, qui partaient pour faire l'appel pour que les gens qui sont dans les maisons puissent savoir qu'il est l'heure de la prière. Dans sa prière, là où il va dire « Hayya ala salah », qui veut dire « Venez à la prière », il est autorisé à dire « Sollu fi rihalikum, sollu fi buyutikum », c'est-à-dire « Priez dans vos campements, priez dans vos maisons, au lieu de venir ». À la mosquée. Donc, vous voyez, l'islam avait prévu toutes ces choses. C'est des choses qui sont dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où l'islam préfère préserver la vie des prieurs, des fidèles, que de les exposer de façon inconsidérée et à la mort ou à la maladie.
Pasteur Issa Moussa, est-ce qu'au temps donc, du prophète Issa, il y a eu des cas de maladies comme le coronavirus?
Donc, il n'y a pas eu comme le coronavirus, oui. Mais il y avait une maladie qui est là, qui est persistante, qui est la lèpre. Et nous savons que la lèpre, ça a commencé avec le prophète Moïse, lorsque Marie avait un peu mal parlé de Moïse, sa sœur, sa grande sœur. Dieu l'avait frappée de lèpre. Et lorsqu'elle avait été frappée de la lèpre, Dieu avait donc ordonné à Moïse, mettez-la hors du camp jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Et Moïse avait plaidé devant Dieu, et Dieu a dit donc, je lui donne une semaine et elle sera guérie. Et dans les lois de Dieu, quand nous lisons dans Lévitique, Dieu, il a donné des lois, des prescriptions, donc pour protéger son peuple par rapport à des maladies qui sont contagieuses. Ça peut être la lèpre, ça peut être les hémorroïdes, et d'autres infections. Et quand il y a ce genre de maladie, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Mettez le malade de côté jusqu'à ce qu'il soit guéri. Donc, c'est-à-dire, le confinement avait commencé là-bas. Donc, il faut qu'il soit à l'écart. Pourquoi il soit à l'écart? Parce que s'il est au milieu du peuple, il risque d'infester tout le peuple. Et là, ça sera un problème donc pour le peuple de Dieu. Et c'est ce qui fait que, donc, quand nous prenons les cas des lépreux, eux, ils ne sont jamais avec le peuple de Dieu. Donc, quand il y a cas de lèpre, donc, ils ont un camp, c'est leur campement, c'est là-bas ils sont confinés là-bas. Et jusqu'à ce que Dieu fasse grâce, donc, ils soient guéris, c'est en ce temps. Donc, ils vont venir, et là même, il faut qu'ils soient testés par le prophète pour confirmer qu'ils sont guéris. C'est vrai, donc, quand nous voyons, même dans la Bible, Jésus même, lui-même, il a eu à rencontrer 10 lépreux. Parce que tous ces lépreux-là, ils étaient dans un camp, mais lorsqu'ils avaient entendu que Jésus est dans la ville, qu'ils étaient venus, Jésus les a purifiés, il les a guéris. Mais avant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allez-y voir donc les sacrificateurs pour confirmer que vous êtes guéris, c'est en ce temps que vous pouvez intégrer la communauté. Vous voyez, ce genre de maladie contagieuse, quand il y a ça, Dieu lui-même avait ordonné au peuple de prendre des mesures adéquates qu'il faut pour que la population ne soit pas atteinte. Donc, des mesures que Dieu le met. Donc, les mesures, le plus souvent, c'est les mesures donc, de confinement.
Le gouvernement donc, a tendu la main dès donc, le début de cette situation qui bouleverse le monde. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans la lutte donc, du coronavirus?
Les leaders religieux, comme partout d'abord, ils ont appelé les gens à respecter des mesures salutaires. Et pour cela, lorsqu'il y a eu la première réunion, là, la deuxième, au niveau du palais de congrès, le CEDIR, à travers ses membres musulmans comme chrétiens, ont participé activement à ces rendez-vous et ont donné leur accord, ou en tout cas, ils ont bien collaboré avec les autres oulémas pour pouvoir arrêter les mesures relativement à la fermeture temporaire des lieux de culte. Donc, de ce point de vue, le CEDIR a vraiment été à la hauteur. Ensuite, le CEDIR, au nom du CEDIR, nous avions eu à faire plusieurs émissions pour la télé, surtout la télé Sahel, le télé Sahel et l'Ouartin, mais aussi pour d'autres radios, telles que les radios communautaires ou Radio Anour, etc. Mais aussi, le jeudi passé, au nom du CEDIR, musulmans et chrétiens ont gêné. Il y a eu beaucoup d'autres interventions et des affiches même suggestives pour montrer aux gens comment porter les masques, comment se laver les mains, etc. Et que nous avons pu faire passer dans les réseaux sociaux, sans compter plusieurs interventions à travers des audios et des vocales qu'on avait lancées sur divers réseaux sociaux pour sensibiliser la population et surtout pour attirer leur attention sur leur devoir moral et religieux de respecter ces mesures.
Est-ce que vous avez donc suffisamment de moyens pour mener à bien vos actions dans la lutte contre ce coronavirus?
Non, ce n'est pas une question de moyens, parce qu'on n'a pas attendu de moyens de qui que ce soit. C'est un devoir religieux. Tout le monde a foncé sans calculer. Souvent, on a utilisé même nos propres moyens, chacun individuellement, là où il est, avec le moyen qu'il peut pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir aider selon ses moyens. Donc, on n'a pas attendu le moyen de qui que ce soit. C'est un travail normal de tous les jours que les imams, les pasteurs, ils font chacun dans son église pour pouvoir, ça fait partie de leur mission en tant que berger, de pouvoir prendre soin des fidèles et surtout d'assurer leur sécurité et leur sérénité et leur bien-être. C'est pas quelque chose qu'on fait pour aucun 15 sous. Personne ne nous a payé, on ne demande à personne de nous payer pour faire notre travail qui est un travail normal, un travail de tous les jours, un travail de Dieu.
Est-ce que donc cela a eu donc un effet donc positif donc sur la population?
Effectivement, vous avez constaté que la plus de 80% ou 90% de nos lieux de culte sont fermés. Surtout les lieux chrétiens, ça je peux dire même que c'est à 100%. Donc on peut dire que vraiment ça a eu un effet positif.
Vous êtes confronté à des difficultés?
Oui, les difficultés, c'est des gens qui sont incrédules, qui ne croient pas à la réalité du virus. Peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations. Nous, les religieux, on ne peut pas vérifier, faire des enquêtes de policiers ou bien des investigations de journalistes. On n'a pas ce moyen. Nous, on voit ce qu'on voit. Nous, on prend nos décisions à partir de ce qu'on voit dans les télé, dans les radios, on ne peut pas aller au-delà. Donc certains individus veulent pousser les leaders religieux à aller plus loin. C'est vrai, s'ils en ont les moyens, ils peuvent le faire. Mais on n'a pas ce moyen-là pour aller savoir si c'est vrai ou pas. Alors qu'on voit dans les télé qu'il y a tant de milliers de morts en France, en Espagne, en Italie.
Et la fermeture des lieux de culte, la suspension des prières collectives, l'instauration d'un couvre-feu font donc l'objet ces derniers temps de contestations. Qu'en dites-vous?
Et donc, depuis qu'il y a eu, donc, comme l'avait dit le chèque, le président du CEDIR, les deux réunions au niveau du palais des congrès par rapport aux mesures prises afin d'arrêter et totalement donc, cette pandémie du Covid-19, donc, il y a la fermeture des lieux, la suspension des cultes dans les lieux de culte pour un temps. Donc, et ça, c'est raison. C'est vrai, les gens se retrouvent, les gens s'embrassent, tout ça là. Les gens font des échanges et c'est un lieu propice pour la contamination. Donc, des mesures ont été prises. Et nous savons que quand il y a ce genre de situation, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme de Dieu? Tu es une sentinelle, tu dois veiller sur mon peuple. Nous avons une responsabilité que tout ce qui va entraver, tout ce qui va donc entraîner quelque chose dans la vie de l'être humain, parce que l'être humain est sacré, nous avons le devoir de protéger. Parce que comme l'avait dit Cheikh, on parle de berger. Le leader spirituel, c'est un berger, donc il a la responsabilité de veiller sur sa bergerie. Que tout ce qui va entraîner des problèmes, il a le devoir donc alors de sauver donc alors ses brebis. Donc, lorsqu'on avait pris cette mesure, et donc nous l'avons acceptée, parce que c'est vrai, ça fait mal de se priver d'un endroit de communion avec le peuple de Dieu. Mais une situation qui l'exige, et tout ça dans le cadre de protéger donc le peuple de Dieu, alors donc on est obligé d'accepter et de prendre encore d'autres mesures à travers lesquelles le peuple de Dieu sera édifié dans les maisons. Un problème qui a commencé vers fin janvier, aujourd'hui qui a atteint presque tout le monde, plus de 199 États. Et vous voyez comment ça s'est rapidement donc est vraiment répandu sur la terre. Donc Dieu, il sait, c'est pas que Dieu a oublié la terre, mais Dieu attire l'attention de son peuple. Parce que nous avons dit que nous ne voulons plus de Dieu dans nos maisons, nous ne voulons plus de Dieu dans nos écoles, nous ne voulons plus de Dieu dans nos lieux de travail. Et Dieu, comme quelqu'un a dit, c'est un gentleman, il se met de côté, il nous regarde, comment est-ce que nous allons faire? Mais c'est le moment maintenant, donc, de comprendre. Et c'est une situation qui est là, et notre devoir en tant que leader, donc, c'est chaque jour, comme vous l'avez dit, c'est de sensibiliser, c'est d'attirer l'attention. Parce que le leader religieux a un poids sur les fidèles. Parce que les gens croient à la parole du leader religieux. Ils croient. Un politicien, quand il parle, un leader parle, les gens ont plus confiance au leader qu'au politicien. Donc, c'est pourquoi l'État, il a contacté l'État, le poids, l'espoir de l'État, c'est sur ces leaders religieux-là. Pour que cette chose-là puisse vraiment attirer l'attention du peuple, pour qu'ils prennent les mesures adéquates afin d'endiguer cette épidémie.
Voilà, oui. Ces contestations dont je parlais tout à l'heure se voient donc au niveau donc des fidèles musulmans.
Oui, comme je l'ai dit, vous savez, l'islam normalement est une religion hiérarchisée. C'est-à-dire que chacun là où il est censé être dirigé par un leader. Parce qu'on dit que si tu n'as pas de leader, eh bien forcément c'est Satan qui sera ton leader. Donc, chacun en islam est censé avoir été dirigé par un leader. Parce que, tout simplement, Allah a dit dans le Coran, « Wa'atiyu Allah wa atiyu Rasoula wa ulil amri minkum » Obéissez à Allah, obéissez aux messagers, obéissez à vos leaders religieux. Donc, ça veut tout dire. Aussi, de l'autre côté, l'islam nous exhorte fortement à obéir aux leaders politiques. Quand on dit leader politique, ça commence du chef de village, jusqu'au roi, jusqu'au président, jusqu'au... Pourquoi? Pour la simple raison que c'est lui qui a la situation de la communauté en main. Donc, c'est une force inégalée face à laquelle l'individu ne pèse rien. Donc c'est pour encore une fois préserver la vie de cet individu, de préserver l'ordre et la discipline dans la société que l'islam recommande fortement de ne pas braver et le pouvoir politique. Lorsque vous obéissez à votre guide religieux ou bien à votre leader religieux, sachez que vous n'aurez rien à perdre. Non seulement c'est une prescription divine qui est là, que vous venez de respecter, mais aussi, en cas de problème, vous vous êtes préservé. Ensuite, même ce leader qui s'arrange pour trouver la bonne porte de sortie en cas de situation, lui, en cas d'erreur de sa part, Dieu va le récompenser de la moitié des récompenses. Quand bien même il aurait commis une erreur dans son jugement. Et si il ne commet pas de faute, si vraiment il fait un bon jugement et qu'il prend la bonne décision, là il aura la totalité de la récompense. Si vous abandonnez votre leader religieux, donc vous allez à l'encontre de ses ordres et que vous allez aussi à l'encontre des prescriptions de l'islam, c'est déjà une faute, double faute. Donc vous allez affronter le pouvoir politique. En affrontant le pouvoir politique, non seulement vous n'avez pas fait ce que ta religion te demande, qui est de prier pour un pouvoir auquel tu ne crois pas, un pouvoir qui te paraît indigne ou nuisible, l'islam dit de ne pas l'affronter, de prier pour ce pouvoir-là, pour que ce pouvoir puisse changer et revenir à de meilleurs sentiments. Le salut se trouve vraiment du côté de ceux qui écoutent leur leader religieux. Et quelle que soit la décision, sachez que vous n'aurez rien à perdre.
Alors, pasteur Issa Moussa, que pensez-vous?
Et comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours que le leader va sortir une décision qui va plaire aux autres. Parce qu'il y a des décisions de foi vraiment, les gens voient que ça va à l'encontre de leurs intérêts. Mais quand la situation l'exige, parce que nous avons le devoir de respecter les autorités, donc il faut qu'on soit totalement soumis. Chacun a été clair par rapport à ces situations. Donc, quel que soit le leader, quelle que soit donc l'autorité, nous avons le devoir de nous soumettre et le devoir de prier pour cette autorité. Si elle a des manquements, notre devoir, c'est de prier pour que Dieu fasse que ce qu'il soit, qu'elle soit meilleure.
Cheikh Ibrahim Aboubakar.
Oui, moi, ce que je voudrais dire vraiment, c'est un appel que je voudrais lancer. Et d'abord à ces personnes qui ont tendance à braver ces mesures. Et je leur dis, votre salut se trouve dans votre obéissance à vos leaders religieux. En obéissant à votre leader religieux, ne considérez pas que vous obéissez à un leader politique. Non, vous obéissez d'abord à votre leader religieux. Tout ce qui s'en suivra ne te touchera pas, ne te concernera pas. Toi, Dieu va te récompenser pour avoir obéi à ton leader religieux et Dieu va te rétribuer et comme si tu avais fait les choses comme ça se doit. Le leader religieux lui-même, s'il a dans son jugement, il a fait une erreur, j'ai eu à le dire, il aura 50%. S'il a bien pris la bonne mesure des choses, il aura 100% de récompense. Donc voilà, c'est aussi clair que ça. Donc ne cédez pas devant ces intoxicateurs qui disent que ça va mettre fin au monde, etc. Non, le monde sera toujours là. Les épidémies et même les pandémies sont passagères. Elles vont tôt ou tard passer et le monde continuera son chemin. Le reste, il faut le laisser entre les mains de Dieu. Deuxième appel, c'est au niveau des autorités politiques. Qu'ils sachent que vraiment, cette situation n'a pas été comprise en tout cas, assez comprise par la population. Et que vraiment la sensibilisation doit continuer à tous les niveaux, mais aussi, surtout, il faut que l'État puisse maintenir le contact, le dialogue permanent avec les leaders religieux. Moi, je propose hebdomadairement pour faire la situation, pour voir s'il y a possibilité de desserrer les taux aussi bien sur les fidèles, puisque cette situation de fermeture de mosquées, il faut le reconnaître, ça pèse dans la conscience de population, surtout les populations qui n'ont pas la bonne information, mais aussi ça pèse sur les leaders religieux qui font l'objet de pressions de toutes parts. Donc, pour toutes ces raisons, mais ici, c'est entre le marteau et l'enclume, mais aussi de l'autre côté, il y a la dangerosité aussi de cette maladie. Donc, c'est pourquoi il y a la nécessité de se rencontrer régulièrement, les leaders politiques et les leaders religieux, pour pouvoir évaluer la situation, pour voir en cas de possibilité de faire des petites ouvertures, pour pouvoir permettre à la population de souffler, pour pouvoir permettre vraiment aux leaders religieux aussi de souffler un peu.
Et quand une pandémie arrive dans une communauté de croyants, comment doit-elle surmonter cette épreuve?
C'est d'abord de respecter les consignes qui émanent des leaders religieux. Ça, c'est des consignes de type confinement, de type la prise de médicaments, par exemple. Il est conseillé de se faire soigner. Quand on est atteint par cette maladie, il faut que les gens sachent que c'est légal de chercher à se soigner, de se soumettre aux soins. Donc, mais aussi, il faut respecter les mesures barrières. Donc, ne pas aggraver la situation de contagion de cette maladie en contribuant, par exemple, à son expansion. Il faut rester confiné, si c'est le cas. L'islam le recommande fortement. On a eu le cas du muezzin, qui, tout à l'heure, on l'a vu, qui, dans son appel même, devait dire « Restez dans vos campements, restez dans vos maisons ». C'est dans l'appel qu'il dira ça, dans l'appel à la prière, que le muezzin doit dire ça. Donc, il y a aussi les prières, les invocations que les musulmans, les croyants sont tenus de faire à la maison, tout en priant, en faisant les devoirs canoniques. Aussi, il faut faire abondamment des invocations pour que Dieu, le Tout-Puissant, puisse nous alléger cette pandémie.
Le COVID-19 est une infection qui n'épargne pas les enfants. Et notre inquiétude, c'est surtout les enfants talibés. Ils sont donc les plus exposés. Comment les protéger?
Les enfants talibés, il faut d'abord les chercher à les recenser, à les sensibiliser, surtout leurs maîtres d'école doivent être sensibilisés. C'est une population très vulnérable. Il faut surtout les sensibiliser au respect des mesures d'hygiène, d'abord. Corporel d'abord, mais aussi le lavage régulier des mains à chaque occasion, à chaque sortie, à chaque après chaque activité. Mais aussi les sensibiliser vraiment à ne pas trop se toucher et à faire très attention à ce qu'ils touchent, mais aussi les entraîner au port de masques si c'est possible, et surtout à éviter les sorties injustifiées, donc à rester à la maison. Donc voilà, c'est un droit pour eux. Ces gens-là, ils ont ce droit, comme tout le monde, ils ont vraiment le droit d'être sensibilisés, ils ont le droit d'être aidés. Si vous êtes quelqu'un qui est nanti, n'hésite pas à aller vers ces gens-là, vers le feu de stop pour aider toutes ces populations. Tant que cette population-là, vulnérable, vit parmi nous et qu'elle n'est pas protégée, sachez que nous ne sommes pas protégés du tout. Puisqu'ils font partie de nos voisins, et ils font partie de notre vie, il faut absolument qu'ils aient le même niveau d'information, qu'ils aient aussi à peu près les mêmes moyens de protection. Eux et leurs enfants, eux et leurs compagnons, pour pouvoir vraiment aider à protéger toute la population.
Est-ce que vous avez approché ces marabouts?
Bon, au niveau du CEDIR, nous, on travaille étroitement avec les marabouts, avec les religieux, disons, les ulémas et les pasteurs. On travaille étroitement avec eux. Question moyen, le CEDIR n'a pas de moyens. Le CEDIR travaille chacun avec les moyens qu'il a. Le CEDIR n'est pas là pour demander de moyens. Le CEDIR travaille, fait ce qu'il peut faire. Il n'est pas là, il n'attend pas de moyens de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est un devoir. C'est un travail de tous les jours qu'on est en train de faire. On ne va pas attendre que quelqu'un vienne nous donner un moyen. Non, mais on ne refuse pas. Si quelqu'un dit, voilà, des kits pour se laver les mains, pour les populations vulnérables, c'est bienvenu, c'est très bien. On va accompagner, aider pour aller donner ça aux gens-là. Mais pour le moment, ce qu'on peut faire, finalement, prêcher, sensibiliser et faire même des rencontres aussi bien sur le terrain et d'autres. Voilà.
La pandémie donc du coronavirus a un impact négatif sur le plan économique du pays où le taux de pauvreté est déjà élevé. Alors comment aider son prochain dans ces moments difficiles, Pasteur Issa Moussa?
Donc le devoir, donc aider, c'est un devoir pour toute personne qui croit en Dieu. Parce que Dieu a dit donc de penser à ceux qui sont dans les besoins, de les soutenir d'une manière ou d'une autre. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Que la main qui donne, c'est elle qui reçoit abondamment de la part de Dieu. Donc, c'est vrai, donc pour le moment, on ne voit pas comment ça va peser. Mais c'est après qu'on va voir que vraiment, cette maladie, donc après, c'est la pauvreté qu'elle va entraîner. Donc, nous, quel est le devoir de chacun de nous? C'est de nous entraider. Aller au secours de ceux qui sont dans les besoins pour les soutenir, pour sortir de cette situation. Parce que d'abord, ça doit nous toucher en tant que communauté. La communauté, le devoir de la communauté, c'est de s'entraider. Donc, aller les uns vers les autres pour nous soutenir par rapport à cette situation avant d'attendre ce qui va venir de l'État. D'abord, c'est un devoir communautaire. Parce que quand nous prenons nos communautés, c'est une communauté qui est vraiment qui est très solidaire. Donc, nous devons commencer. Nos voisins sont là dans des difficultés. Voilà, Dieu nous a bénis. Notre devoir, c'est de partager cette bénédiction avec les autres.
Cheikh Abraham Aboubakar, dans quelques jours, donc, la communauté musulmane débutera donc le Ramadan. Comment aider donc à son prochain?
Donc, comme les autres années, ou bien plus que les autres années, c'est cette année que vraiment il faut redoubler d'efforts dans l'entraide. Il faut aider les nécessités bien aujourd'hui même, à commencer à partir d'aujourd'hui. Et il ne faut pas attendre le Ramadan. Pourquoi attendre le Ramadan tant que les nécessités sont là, tant que les besoins sont là? Il faut, pour ceux qui ont le moyen, il faut qu'ils commencent dès maintenant à aider ceux qu'ils peuvent aider. L'aide n'est jamais nécessaire que dans les difficultés, que dans le besoin. Il faut aider ceux qui en ont besoin. L'aide n'est pas pour le Ramadan. On a vu que des gens qui ne partagent leur zakat que le Ramadan. C'est un scandale. La zakat ne peut pas être calquée au Ramadan. Si tout le monde se met à distribuer leur zakat pendant le Ramadan et le reste de l'année, alors que si quelqu'un donne son zakat en janvier, d'autres vont donner en février, d'autres en mars, etc. Donc pendant toute l'année, les nécessités sont entretenues. Donc il ne faut pas que les gens continue cette habitude qui consiste, chacun va calquer sa zakat au mois de Ramadan. C'est pas une raison, c'est une entorse à la législation islamique, parce que ces 12 mois, à compter de ces 12 mois que vous avez un stock d'argent, une richesse qui est stockée pendant 12 mois, c'est à partir de ce 12e mois-là qu'il faut faire sortir la zakat. Pas nécessairement calquer ça sur le Ramadan. Peut-être si tu veux calquer ça, tu vas faire 7 mois ou bien tu vas faire 15 mois. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que les gens pensent à ça. Il ne faut pas que les gens aident seulement pendant le Ramadan. L'aide, c'est pour tous les jours, surtout avec le COVID-19. Vraiment, il faut aider, aider, aider.
Cheikh Abraham, votre mot de fin?
Comme je l'ai dit, j'aimerais vraiment que ce COVID puisse amener les uns et les autres à instaurer le dialogue, les religieux comme les politiques, pour que régulièrement, chaque semaine, sinon même un peu moins, ils puissent se rencontrer, évaluer, faire la situation, voir en prévision de ce mois béni de Ramadan, si jamais il y a une possibilité de faire, d'alléger les mesures pour pouvoir alléger la souffrance de la population, pour pouvoir desserrer les taux sur les leaders religieux, c'est mieux que d'assister à des situations de révolte par-ci, par-là. Vraiment, il y a lieu de voir qu'est-ce qu'on peut faire, puisqu'il y a d'autres pays qui le font, comme au Nigeria, où vraiment les mosquées continuent d'être ouvertes, avec des mesures strictes, les lavages de mains, mais aussi le port de masques, mais aussi la distanciation sociale, ainsi que la sensibilisation qui continue, et les invocations. Donc, vous voyez, il y a pas mal de mesures qu'on puisse faire pour pouvoir alléger cette situation là où c'est possible.
Voilà, pasteur Issa Moussa.
Donc, moi, vraiment, mes mots de fin, c'est la prière. Vraiment que Dieu ait grâce par rapport à cette situation que nous sommes en train de vivre. Dieu a montré que l'homme est fragile, l'homme est impuissant à son égard. Et nous prions pour que la miséricorde de Dieu soit sur les humains, afin que Dieu arrête ce fléau, comme il a eu maintes fois à le faire. Donc, que Dieu apporte la guérison dans les nations. Donc, vraiment, et que je prie que ce soit un moment où les cœurs vont se tourner vers Dieu.
Merci. C'est la fin donc du forum sur la contribution des leaders religieux dans la lutte contre le coronavirus. Les leaders religieux, comme vous venez de les suivre, jouent un rôle important dans la lutte contre la pandémie du COVID-19, cause pour laquelle, dès les premières heures, le gouvernement a souhaité l'appui de ces leaders religieux dans la gestion de la maladie. Au cours donc de ce forum, les leaders religieux appellent la collaboration des uns et des autres pour mettre fin à la propagation de la maladie à coronavirus. Nous étions donc en compagnie de Cheikh Barham Aboubakar, président du comité inter- et intra-religieux CEDIR, et du pasteur Issa Moussa, membre du CEDIR. La présentation est assurée par Fatih Zakari.